à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois, Liam, moi-même, François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut tout le monde.
Et aujourd'hui, nous allons faire un parcours ludique accompagné d'un invité de choix et de prestige. Nous accueillons Cyril Blondel autour de la table.
Bonsoir.
Et tu es éditeur et créateur de jeux de société.
Tout à fait.
Ce qui nous plaît tout particulièrement autour de la table, puisque nous consommons énormément de jeux et nous avons pu jouer à certains de tes jeux. On va le voir en détail tout à l'heure. Alors, juste avant de détailler un peu ton parcours, c'est vrai qu'on a l'habitude de commencer par ouvrir l'agenda. Dominique, nous avons plusieurs petits événements qui auront lieu la semaine prochaine, donc on va en profiter pour en parler rapidement. Alors, premièrement,
Les Grands Enfants, c'est une association de jeux de Seclin qui organise tous les ans une bourse aux jeux et aux jouets. Et c'est le 11 novembre. Donc c'est à Seclin, c'est à la salle des Dules, de 18h à 10h, c'est gratuit. Donc si vous avez des jeux à vendre ou des jeux à acheter, ça tombe bien. Je crois qu'il y a un petit truc pour une espèce de fête dans quelques semaines où on va offrir des jouets, je crois.
Donc, c'est une bonne occasion.
Déjà, tu peux refourguer tes jeux de... Ouais, c'est ça. Tu peux refourguer tes jeux de l'année dernière auxquels t'as pas joué, et puis tu peux les échanger contre des nouveaux. Donc salle des Dules à Seclin, le 11 novembre, c'est ça. Donc pour d'info, vous cherchez Les Grands Enfants sur Facebook au hasard et vous le trouverez tout de suite pour avoir le détail, les conditions d'inscription, les conditions sanitaires, etc.
Et en plus, ils nous ont contactés donc sur notre page Heureusement.
Oui, on est déjà allé à plusieurs de leurs événements. Ils sont très sympas. Ils organisent régulièrement des choses en début d'année, même toute l'année. Ils sont très sympas.
Donc, on vous invite, si vous avez des événements ou des projets et vous souhaitez en parler dans l'émission, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux Heureusement en France ou même envoyer un petit message à Radio Campus 106.6. Un autre, alors, on a eu le Z-Event. La semaine dernière.
Le week-end dernier, qui a encore battu des records. Donc, le Z-Event, c'est l'événement caritatif des streamers, des joueurs de jeux vidéo principalement. Chaque année, ils ont doublé. Ils ont presque atteint les 10 millions d'euros. Cette année, c'était au profit d'Action contre la faim.
Ouais, ils les ont atteints avec la vente des t-shirts. Quand on en parlait lors de l'émission de la semaine dernière, on parlait qu'on était à 3 millions encore quelque chose, 3 700 000, 3 500 000. Et dans la demi-heure qui a suivi, Zerator a parlé, il a annoncé la première sortie des t-shirts et ils avaient déjà atteint 2 200 000 euros de t-shirts de vente. Donc c'est passé directement à 6 millions, 7 millions, et ils ont atteint les 10 millions en fin de nuit.
Ça, c'est incroyable. Ouais. Donc là, on va parler d'un autre événement, alors peut-être un peu moins, ils visent un plafond un peu plus bas, ça s'appelle le Roll Event, Roll parce que jeu de rôle. Alors toutes les informations, c'est Roll Event, rollevent.fr, ça commence jeudi, il y a des parties de jeux de rôle, et c'est surtout une action caritative, donc on peut faire des dons pendant tout le... Alors ça commence le jeudi, ça finit le dimanche 14 à 13h, ça se passe sur Discord, entre autres. Alors il y a des parties de jeux de rôle, il y a des conférences, il y a des tables rondes, et c'est au profit cette année de trois associations. Alors les Blues Roses, c'est l'association française, la Fondation Théora, c'est l'association suisse, parce que c'est un événement francophone, et Opicloun, c'est l'association belge, donc c'est trois associations qui agissent, entre autres, à l'hôpital pour faire des actions, pour apporter des jeux, pour distraire les enfants qui sont à l'hôpital, etc., ou pour soutenir un peu les personnels. Donc, toutes les informations, tous les détails, c'est sur rollevent.fr. J'ai vu qu'ils cherchent encore du monde pour organiser des parties de jeux de rôle, proposer des parties. Je crois que c'est à peu près plein, mais ils cherchent encore des intervenants pour certaines tables rondes ou conférences. Donc
d'accord. Et est-ce que c'est ce genre de participation où les gens peuvent rejoindre et jouer à une partie de jeux de rôle?
Il faut s'inscrire à l'avance quand même. Donc sur le site, tout est bien expliqué, on peut s'inscrire, on choisit sa date, il y a pas mal de trucs.
Un événement à suivre, je pense qu'on y jettera un coup d'œil la semaine prochaine pour voir si ça a bien fonctionné, mais j'en doute pas. Alors forcément un peu moins que le Z-Event. Et on va terminer par un gros salon qui...
C'est notre salon un petit peu fétiche, on va dire, un peu pas. Parce que c'est Ludikick, donc qui se déroule samedi et dimanche prochain, donc les 13 et 14 novembre, à Luin, dans la salle du manège. Je vais la refaire, qui se transforme le dimanche soir en salle du ménage. Voilà.
Si on ne la fait pas tous les ans, elle ne marche pas celle-là.
Il se plaint sinon. Donc 10h à 19h le samedi et le dimanche. Alors c'est un salon qu'on aime particulièrement parce que c'est écrit dans le nom geek, ça nous ressemble un peu. Il y a du jeu de plateau, il y a de la figurine, il y a des reconstitutions, il y a du manga, du comics, il y a un peu de tout.
Même du cosplay.
Exactement. Et cette année, pour te dire, il y a une association qui s'appelle les Rokugani, qui font des simulations, des combats de sabres avec des sabres japonais. donc médiévaux, mais tu as aussi une association qui fait des combats de sabres avec des sabres laser. Je ne sais pas s'ils ont prévu de se mettre sur la tête, donc on verra bien. Et ben, comme on a rencontré Mike il y a deux semaines au Hammer Time, j'ai enregistré un petit son pour qu'il nous parle de ce
thème. Le thème cette année, on a repris, alors il y a une petite surprise, voilà. On s'est dit qu'on voulait faire un retour vers le futur, puisqu'on n'a pas pu faire notre édition l'année dernière. Donc cette année, on aura en exposition une DeLorean. La DeLorean du film Retour vers le futur, qui est un petit peu notre petit clin d'œil sur notre édition passée, où on reprend la thématique sur la transposition des jeux de société qui sont adaptés à partir de bandes dessinées, de mangas, de comics, et l'inverse en fait. Donc en fait, il y aura plein de jeux qui seront présentés qui dépendent de licences d'animés, de comics, de bandes dessinées, et inversement aussi. Voilà un petit peu la thématique. Après, c'est toujours ouvert aux univers fantastiques, au steampunk, à la science-fiction, aux médias fantastiques. Voilà, c'est vraiment un très large horizon en fait par rapport à la thématique.
Il y aura des auteurs, des protos cette année ?
Oui, alors j'aurai un romancier qui vient. J'ai Rodolphe Van Oort qui viendra présenter le tome 2 de L'Héritière du Chaos, qui est un ami de longue date et qui sera là en dédicace. On aura l'illustratrice du jeu Chakra, Claire Conan, qui viendra chez nous aussi pour dédicacer l'extension de Chakra qui est sortie il y a quelques temps. Ensuite, je disais un peu aussi les gens qui vont venir présenter des prototypes de jeux. On aura les copains de Freaky 42 qui viendront présenter Garou Relou aussi, qui ont eu un prix justement il n'y a pas très longtemps à Octogone, le prix famille. Et ensuite, on présentera de petites exclusivités. On pourra jouer à Rainbow Six de Mythic Games. On pourra jouer à Monsterpocalypse aussi. Sans doute le dernier jeu d'Ankama qui a fait un Kickstarter qui s'appelle Arceus. Il sera en démo aussi chez nous. Et puis après, quelques nouveautés de chez Gigamic aussi qui seront présentées.
Ok. Alors comme d'habitude, c'est gratuit l'entrée. En plus, on peut repartir avec des trucs.
Alors, l'entrée est toujours gratuite. L'idée pour nous, c'est de ne pas faire payer une entrée parce qu'on préfère que les gens participent à des petits jeux qu'on organise et surtout à y acheter des petites choses sympas sur le partenaire boutique qu'on a. Donc comme chaque année, on fera gagner tout un tas de choses. On est en négociation, mais cette année, on a toujours un gros lot, on a toujours quelque chose de sympa. La dernière édition, on a fait gagner une Switch. Donc cette année, on hésite un petit peu, mais il y aura vraiment quelque chose de spécial à gagner, très intéressant. Mais pour cela, il faudra venir à bout d'un gros quiz un peu dur sur Retour à le futur. Donc, travailler un petit peu, mais voilà, ça vaudra vraiment.
Voilà, Mac Monnier pour le festival Ludique.
Donc, samedi et dimanche 13 et 14 novembre, de 10h à 19h, c'est gratuit. On peut même repartir avec des lots, il l'a dit, à la salle du manège. Ah, lui, je me suis pas trompé. C'est vraiment le genre de festival qu'on aime bien. Il y a quelques semaines, voilà, j'avais rencontré Cyril Blondel aussi, un tout nouveau festival qui se lançait, le Ternois Ludique. Leur première édition, qui était, je trouvais, très sympa.
Très sympa.
Voilà, le petit festival très.
Aux petits oignons, très bien accueilli.
Est-ce que tu as participé aussi à l'événement, c'est ça ?
Oui, j'ai été en tant qu'exposant, éditeur, auteur. Et il y en a eu plusieurs cette année dans la région qui se sont créés entre Ternois. Il y a eu aussi à Longness. Il y a eu un autre festival pour la première fois. Et donc, il y a beaucoup de villes un petit peu moins grandes que celles qu'on connaît habituellement qui finissent par faire leur festival. Alors, c'est un peu plus large que le jeu de société parce que généralement, ils marient le jeu sous toutes ses formes. En fait, alors ça va des châteaux gonflables aux jeux vidéo en passant par les jeux de plateau.
Alors, toi qui es éditeur, est-ce que, si on te donnait le choix, est-ce que tu t'orienterais plus sur des salons qui démarrent comme ça ou sur des grosses usines à gaz comme on peut avoir un Mont Sans Barrel ?
Ouais, ou plutôt Cannes.
Ouais. Ou Cannes, ou. Bon, alors.
Ouais. Disons qu'il y a. Cannes, il y a deux salons qui sont un petit peu trois si je mets Essen dedans, mais en fait il y a deux salons en France. Cannes est évidemment assez référencé, mais parce qu'il a toute une partie professionnelle. Donc en fait, ce que vous ne voyez pas forcément quand vous y allez en tant que joueur, mais en fait le festival est double, c'est-à-dire qu'il y a une partie face public et il y a une partie cachée qui se passe que entre professionnels dans les étages de la salle, et donc on doit doubler tous les stands. C'est ce qui fait un peu l'exigence.
Comme le festival de Cannes de cinéma où les gens viennent vendre et acheter des films.
Exactement. Donc t'as une sorte de showroom en parallèle, et donc c'est pour ça que ce sont des festivals entre guillemets assez assez énergivore et assez coûteux, parce qu'il faut en même temps pouvoir assurer la face publique avec des animateurs, etc. Et de l'autre côté, tu as toute la partie pro avec l'accueil des boutiques, de la presse, des blogueurs, etc. Et donc, tu as un deuxième festival qui commence à s'imposer un petit peu comme ça en termes de timing sur l'année, c'est celui de Vichy. Où il y a maintenant, on en a vu pas hein, parce que vous m'avez vu jouer de la guitare, mais il y a donc le salon du GBL, du groupement des boutiques ludiques, qui se tient aussi à ce moment-là, qui remet ses prix. Et en fait, ça, c'est un salon aussi qui est en train de prendre professionnellement de l'importance, parce qu'il est situé, il est bien placé par rapport à la fin d'année en fait, et notamment donc pour les jeux, pour Noël, etc. Alors que Cannes étant en février, il est quand même un peu tôt dans l'année pour les boutiques, pour provisionner leurs jeux de fin d'année, même s'ils vont avoir connaissance des sorties, avoir un rappel en septembre, c'est intéressant pour eux. Donc ce qui fait que celui de Vichy est très très prisé en fait par les pros maintenant, pour se rencontrer, discuter tranquillement des projets de fin d'année. Et comme il est de taille un petit peu plus cool que Cannes, on a le temps de discuter, on a le temps de boire des pots, etc. Il reste une échelle encore...
humaine,
on va dire.
À Cannes, on croise des familles, mais c'est vraiment des familles de geeks qui viennent parfois de loin avec leurs enfants, qui sont déjà des joueurs à la limite. C'est pas la personne qui va passer devant le palais des festivals à Cannes, oh, je vais entrer. Tandis que comme Ludigeek ou Ternois Ludique, tu peux passer dans la rue et voir une affiche, tu dis hop, des jeux gratuits toute la journée, bah, j'y vais avec ma famille, on savait pas quoi faire cet après-midi, c'est parfait. Ouais. Surtout, j'ai envie de dire, pour le type de jeu que tu présentes à chaque fois, mais on va y revenir.
Alors voilà, juste avant de parler des jeux de société, des éditions Flip Flap, est-ce que c'est une tradition dans l'émission, c'est un peu de voir le parcours initial de nos invités. Comment, depuis le début, hein, si on vient aux roots, comment est-ce que l'enfance. Tu en es venu à attaquer le domaine ludique et petit à petit à arriver à en créer des jeux de société?
Alors, si je dois vraiment remonter du début, et quand j'étais enfant, dans mon souvenir, j'ai beaucoup joué avec notamment mes frangines à la maison. Mais donc on était très jeux que tout le monde connaît, on va dire Monopoly, Risk, etc. Du Boggle, enfin voilà, tous les jeux, un petit peu ça. Donc pas trop des jeux, plutôt les jeux mainstream, on dirait, les jeux un peu très connus. Et puis après, pendant 20 ans, c'est sorti de ma vie complètement, avec des petites touches comme celle des loups-garous qui sont venus un petit moment, voilà. Catan aussi, que j'ai découvert un peu au moment de sa sortie. Magic. Mais ça jamais... pas de Magic.
Je dis le mot maudit. Magic.
Non, j'ai jamais... Honnêtement, non, j'ai jamais joué à Magic. Non. Je sais pas, même pas comment ça fonctionne, tu vois, concrètement. Donc, pour te dire. Donc, c'est complètement sorti. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, donc, j'ai fait des études de sciences, et donc j'ai travaillé au Forum des sciences, ici, pas très loin. Et je me suis retrouvé à la conception des expositions. Au début, je suis rentré en tant qu'animateur, où on fait toujours un peu des petits jeux pour les enfants, mais ça va pas souvent chercher très loin. En tout cas, on se base un peu sur ce qu'on connaît. Ensuite, je suis rentré à la conception des expositions, et c'est quand je me suis frotté à ces conceptions, petit à petit dans le temps, c'était aussi la montée de Trick Track, etc., où j'ai beaucoup participé au forum des créateurs au départ. Il y avait beaucoup de créateurs qui échangeaient, qui avaient des problèmes, et de temps en temps, moi, j'étais confronté à des petites choses que j'arrivais pas à résoudre, ou matériellement, etc. Donc, on a commencé à échanger comme ça, et j'ai commencé à m'intéresser au renouveau du jeu de société, voilà, vers 2010, quoi, à peu près. Enfin, 2007, c'est ça, j'ai commencé à voir émerger les Cocktail Games, etc. Et c'est en fait via Cocktail Games qui met une annonce sur le forum des créateurs de Trick Track, en fait, qui met une annonce de recherche, de création d'un jeu autour du thème de la cuisine.
Tu avais déjà créé un jeu, enfin, publié ou pas?
Non, rien du tout. J'étais juste participant au forum, et je participais plutôt sur l'aspect muséographie, la conception d'expo, et puis des petites participations de projets. Et en fait, Mathieu Despneaux donc met une annonce, et à ce moment-là, moi, je faisais aussi de la musique, donc j'étais assez engagé musicalement avec un groupe, et on était en studio, et donc je n'ai pas le temps de répondre concrètement à cette annonce. Et puis la maquette du studio se termine, et je vois Mathieu Despneaux qui, 6 mois après, remet l'annonce en disant on a lancé une bouteille à la mer il y a 6 mois, on n'a eu aucune réponse. Donc on la relance, et puis là, comme la maquette était terminée, j'ai fait un petit message à Mathieu, mais 5 lignes, parce que bon, j'y connaissais rien, voilà. Et 48 heures après, j'avais le contrat dans ma boîte aux lettres, sans proto, sans rien du tout.
Donc c'était 5 belles lignes alors.
Donc en fait, il m'a dit juste sur le concept. Il avait tellement peur, c'est ce qu'il m'a dit après, hein. Donc au début je le savais pas, mais il m'a dit j'avais tellement peur que t'ailles le présenter à quelqu'un d'autre que voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai plongé dans le monde de l'auteur, de l'autorat on pourrait dire, et en fait...
On n'a pas cité le jeu, je crois.
Alors voilà, j'allais y venir, puisque ouais. Voilà, il est devenu 2 ans après. Il a fallu 2 ans derrière mes 5 lignes pour développer le jeu, qui est devenu l'atelier des chefs, qui doit être un des plus gros échecs de Cocktail Game. Un des plus gros fours, comme on aime à dire. Mais ce qui était assez drôle, c'est que Mathieu, d'ailleurs lui-même, Mathieu Despnous, me disait « Jamais j'ai fait ça pour un jeu, de signer juste sur une idée. » D'habitude, les auteurs viennent. Donc moi, j'étais persuadé, ne connaissant rien, que c'est quand même plus ou moins au concept que ça se passait, quoi. Donc voilà, donc je lui en fais grâce souvent parce que il m'a fait plonger comme ça. Et j'ai arrêté la musique quasiment du jour au lendemain avec ça, parce que ça se passait plus trop bien avec le groupe. Donc la fin de la maquette avait été assez compliquée. Et donc voilà, et depuis 2009, donc j'ai eu mon premier contrat, le jeu est sorti en 2011, et puis dans la foulée, j'ai eu la chance avec mon deuxième jeu, donc il y a eu le premier qui a été signé par Mathieu, ma première idée, parce que j'avais même pas de proto, et en 2011, en fait, je viens avec un deuxième proto que je présente à Ludix, qui était un festival en Auvergne à l'époque, de jeunes auteurs uniquement composés de prototypes. Et je le présente en même temps à l'UDIX et au concours de Boulogne, je ne sais pas si vous connaissez, le concours du CNJ, Centre National du Jeu. Et en fait, le jeu remporte et l'UDIX et Boulogne. Wow. Sur mon premier, en fait, vrai proto fabriqué. Donc là, en fait, c'est...
Tu peux reculer, là.
Voilà, là, c'est là où je me dis, tiens, il y a peut-être... j'ai peut-être un petit truc là-dedans à défendre. Et puis, à partir de là, j'ai quand même traîné... 3-4 ans avec mes protos divers et variés avant de monter Flip Flap Édition en 2013. Donc 4 ans après mes débuts.
C'était, c'était pour éditer tes propres jeux, c'était, ou tu voulais, t'as réfléchi à les proposer à l'éditeur.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Ludix, en remportant Ludix donc, en 2011 et le concours de Boulogne, j'ai la chance de rencontrer beaucoup du monde du jeu, puisqu'il y avait Asmodée qui s'était intéressé au jeu. À l'époque, c'était Croc, qui découvre le jeu. Je rencontre Lia Sabine. Enfin, voilà, des gens assez influents du monde du jeu. Et dans ce lot-là, en Auvergne, je rencontre BlackRock, qui est une petite boîte qui s'est montée il y a 2 ou 3 ans, avec Johan Laurent à sa tête, qui avait monté ça en tant qu'étudiant pour faire un projet sportif. Donc moi, je rentre là-dedans, ils ont 2-3 ans d'existence, ils doivent avoir 10aine de jeux en distribution avec Ilopelli, enfin, je ne sais pas si vous avez connu un petit peu tous ces éditeurs-là, mais et voilà.
Quand on voit BlackRock maintenant, enfin...
Et c'est ça qui est dingue, c'est que donc moi, j'arrive là et ils me disent, et je leur montre... j'ai 5 protos avec l'intention de ne fonctionner qu'avec une seule mécanique, c'est-à-dire on prend un deck de cartes, on flippe une carte, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Donc je prends juste de la base d'un deck avec une carte flippée, et donc jouer avec l'interaction recto-verso. Et donc à ce moment-là, j'ai 5 jeux qui fonctionnent avec ça. Et je leur explique que j'aimerais bien... Donc je les montre à Cocktail Game, et Cocktail Game, il n'y en avait que 2 ou 3 qui les intéressaient sur les 5. Je le montre à BlackRock, il y en avait, etc. Tout le monde était intéressé par certains, mais pas par l'entièreté de la collection. Et moi, ça m'intéressait de défendre un concept transversal. Et du coup, BlackRock m'a dit, écoute, si tu t'édites... comme ce sont que des jeux de cartes, voilà, il y a une prise de risque qui était que mesurée, quoi. Donc si tu t'édites, on les distribuera. Et donc c'est comme ça que j'ai créé Flip Flap en 2013, Flip Flap Édition. Alors faut faire attention parce qu'il y a les éditions Flip Flap qui existent, que j'ai découvert, on s'est créé en même temps. C'est dingue, le même mois, ils ont déposé édition Flip Flap et moi c'est Flip Flap Édition. Donc si quand vous cherchez, faites attention. Et en fait, et donc j'ai créé donc la petite collection des Flip Flap qui fonctionne donc au départ. Et le nom Flip Flap d'ailleurs vient de ce système Flip Flap, flipper une carte.
Des petits jeux tout simples, carrés, voilà, qui font, je sais pas, 5 cm.
Exactement. Un deck de cartes et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Et l'ironie du sort, c'est que en 2015, Mathieu Despnous a refait. En fait, j'ai revendu certains des droits de ces jeux-là pour que Mathieu Despnous et Cocktail Game donc les fassent, notamment Pile Poil et Tête de Linotte qui s'appelait, enfin Tête de Linotte chez dans ma maison d'édition, qui est devenu Tropico en fait chez Cocktail Game, et puis qui est parti dans 6 pays différents, enfin voilà, qui a toujours une vie depuis que je l'ai créé, il est toujours là et il est encore chez Cocktail Game maintenant.
En gros, c'est un peu comme le mercato, quoi. Tu as revendu un peu la mécanique. Et puis,
ouais, c'est-à-dire que l'idée, c'était ça serve aussi un peu de laboratoire. C'est-à-dire, plutôt que de lancer un jeu en grande série tout de suite en disant, bon, allez, j'en imprime 5 000 ou 10 000, puis je vais voir. Le but, c'était de faire des petites séries, puisque comme on peut les cumuler, en fait, l'idée, c'était d'en avoir des petites et de voir, en fait, ce qui prenait. Un peu comme ça, juste chez les gens, parce que parfois, bon, en auteur, éditeur, on est un peu persuadé que les gens vont bien se marrer, puis bon, ça rencontre pas son public pour X raisons. Mais dans le lot, donc, il y en a certains qui marchent, et donc ça permettait de se dire, bah, celui-là, il mérite peut-être une vie. Donc ça permettait de faire une espèce de sas, notamment financier, qui permettait de pas prendre trop de risques et de se dire, on lance un petit labo, et les pièces les plus porteuses, en fait, on les faisait. Émerger. Et c'est encore ce qui va se passer, puisqu'en 2023, la petite collection, elle va s'arrêter un peu sous cette forme, et on va prendre les meilleurs qu'on va rebooster sous une autre forme avec BlackRock, justement.
Oui, il faut dire que les visuels des jeux maintenant, les jeux flip-flap sont très mignons, c'est parfait pour jouer, mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu vois le design maintenant, à chaque fois qu'il y a des festivals où il y a des gens qui viennent avec des protos, des amateurs, la qualité des protos qu'ils ont, parce qu'ils ont des imprimantes 3D ou des imprimantes de couleur laser, c'est mieux que certains jeux sortis professionnellement il y a quelques années, c'est incroyable.
Oui, ça.
Donc, il y a une exigence même au niveau du public. Quoi.
Ça a complètement changé, mais enfin, moi je suis quand même spécialiste des protos moches, quoi. C'est-à-dire que moi je...
On va t'en montrer plein après alors.
Moi je reste convaincu que le boulot de l'éditeur, c'est de recevoir un proto même le plus nu possible, de manière à ce que l'éditeur puisse lui-même se projeter en fonction de son style, sa gamme, etc.
Donc, à propos de spécialiste des moches, t'as des nouvelles de Zaz?
quel beau lancement! J'en ai deux d'un coup là. Alors, on va faire une petite pause musicale, on va même en faire plusieurs parce que j'ai quand même certains albums qui sont descendus du casier et qui ont failli retomber d'une autre. Mais après nous, il n'y a pas grand monde. Alors, on s'est dévoué. Alors, je tiens à m'excuser, Cyril. C'est pas forcément la crème de la crème ici. Est-ce qu'on va parler d'un artiste? Alors, déjà, je dis artiste. Il y a déjà débat. Et qui fait une collaboration avec Till Lindemann.
Ah ouais, c'est un harmoniciste, non?
C'est le chanteur de Rammstein.
Il fait de belles harmonies quand même. Ouais.
Et d'où est apparue cette collaboration entre Zaz et le chanteur de Rammstein?
Une soirée arrosée
Peut-être, ou une soirée...
Les deux producteurs ensemble, ils ont dit, tiens, on ramène notre poulain, ils se démerdent.
Apparemment, c'est lui qui voulait faire une chanson française. Et voilà, la seule artiste qu'on lui a proposée en France, c'était Zaz. À mon avis, c'était la seule disponible. Alors, la chanson est écrite et composée par Till.
Il a écrit des paroles ?
J'entre avec toi
oui.
Dans ce petit jardin de l'âme.
Je suis sûr que si on la passe à l'envers, il y a un message satanique.
Peut-être. Le titre s'appelle Le jardin des larmes. Il est sur l'album de Zaz, forcément. Non mais Cyril, ne pars pas, reviens.
Alors j'écoute.
Le jardin des larmes, c'est ça?
Je me sens si seul avec toi. Je te déteste.
Je regardais comment ça se disait en allemand. Der Karten, der Tramen. C'est tout de suite un peu plus Rammstein.
Je te déteste, mon amour. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Gainsbourg ici? Ah, j'insulte un autre artiste.
La Dominique vient de faire un AVC en direct.
Bon, je vous propose d'écouter de la... peut-être de la vraie musique.
Ah, pourquoi pas. Mais en tout cas, je te remercie. Paraîtrait-il que le mois de novembre est le mois le plus dépressif de l'année. Ah, et tu nous rajoutes ça en plus. Non, mais sympa.
C'est pour nous mettre dans l'ambiance. Ouais. Hein, après Halloween, hein, les gens ont encore peur. Ils peuvent écouter ça. Alors, on va s'écouter un peu de musique, hein, une communion un peu plus religieuse ici, avec Nathaniel Ratcliffe and the Night Swift.
Mais tu fais exprès de prendre les groupes avec les titres les plus longs. Hein.
Ouais, mais oui, tant qu'à faire. Alors ici, on parle au Colorado pour une expérience un peu folk et pop.
Oula.
Voilà, qui va en réjouir plus d'un, je pense.
Sun so long when you only wanted shade. Let the old man laugh, let the old man say that I've never done nothing, it wasn't out of love, baby. Now the weight that you carry seems such a heavy load, while you're face down in the moment waiting to let go. Standing in the light, remember calling all the way. You paraded in the nighttime for a clean getaway. You were standing in the water, but only up to your knees. But you know a strong current can always sweep you off your feet. You were waiting for the right time, but it could take so long. While you're face down in the moment, waiting to let go. Face down in the moment, waiting to let go. Running away out when you lost your way.
face down in the moment, waiting to let go. Face down in the moment, waiting to let go.
Nathaniel Ratliff and the Night Sweets pour son nouvel album Face Down in the Moment, qui est également le nom de la chanson qu'on vient d'écouter sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+ pour cette émission Heureusement en France, en notre compagnie jusqu'à 19h pour parler forcément d'actualité ludique, puisque nous accueillons aujourd'hui Cyril Blondel, auteur, créateur de jeux de société. Alors, on a déjà fait un petit début du parcours ici avec... Alors attention, faut pas se tromper, Flip Flap Edition.
À l'anglaise, ouais, Edition, c'est pas mal.
Alors, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site, donc www.flipflapedition avec un s.fr. Donc vous allez pouvoir retrouver quasiment la majorité des jeux que tu as créés. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un des gros jeux qu'on peut voir récemment en avant du catalogue, je pense c'est Ricochet, qui ouais. dernièrement a fait notamment parler de lui, puisqu'il a gagné plusieurs prix.
Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir sur...
Alors, on avait parlé, c'était le prix des boutiques ludiques.
Alors, le groupement des boutiques ludiques au salon de Vichy.
Voilà, il y a eu ça. Le prix Ludimania la semaine d'avant, qui était un petit prix du public au salon de Dijon. Oui, c'était une belle surprise, parce que tous les ans, donc comme je l'expliquais au salon de Vichy, le groupement des boutiques ludiques, qui représente aujourd'hui les 170 boutiques de jeux indépendantes en France, donc c'est pas toutes les boutiques, mais la part la plus active, on va dire, c'est un nombre qui n'arrête pas d'augmenter avec le temps, remet maintenant trois prix à un auteur, à un éditeur et à un illustrateur. Annuellement, pour se démarquer aussi du prix de l'As d'Or à Cannes, qui lui nomme plutôt des jeux. Le groupement des boutiques ludiques voulait mettre plutôt en aspect humain, en fait, montrer plutôt le travail. Donc j'ai eu la chance effectivement d'avoir le prix pour le travail d'auteur autour de Ricochet, qui effectivement est un gros travail d'auteur, on va dire, c'est-à-dire que c'est un gros travail d'écriture, quoi. Donc c'est ça qui a été mis. Qui a été mis en avant, puisque c'est un jeu qui demande beaucoup de travail proche de l'écrivain, j'allais dire, puisque on est immergé dans une série de mots, enfin voilà, de labyrinthe de sens, plus une histoire, plus des rébus, plus, enfin voilà, donc comme il y a un gros jeu sur la langue française, ils ont voulu mettre ça en avant.
Oui, le principe, pour résumer, avec moi, on va tout casser, on a une grille de mots. 10, peut-être pas 10 sur 10, je ne sais plus combien.
Non, 25, 5 par 5.
5 par 5, ce qui est déjà pas mal. Et on part avec deux mots, un 10. Et le but, c'est de trouver deux mots à la première étape qui correspondent, qui sont. Alors que ça soit des synonymes, que ça soit lié par le sens, par la sonorité, par plein de choses, peut-être, je ne sais pas. Trouver deux mots qui correspondent et qui sont alignés, ça c'est le petit twist. C'est la première étape. Puis la deuxième étape, il faut faire pareil en partant des deux nouveaux mots. Puis, etc., etc. Il y a 10 étapes, c'est ça. Jusqu'à arriver à la fin, la grille est toute remplie, si on ne s'est pas trompé. Et on découvre 2-3 mots qui restent. Et ça donne une phrase, une solution. C'est un, voilà.
Exactement. C'est une sorte de labyrinthe de mots dans lequel vous allez ricocher de paires de mots en paires de mots. Donc il faut à chaque fois trouver les paires associées qui permettent de cacher la grille comme on ferait une grille de sudoku ou de mots croisés. Pour ceux qui jouent un peu à Codename, c'est une sorte de Codename un peu solo, Codename collaboratif. Et effectivement, le twist de fin qui est que les mots qu'on ne cache pas dans la grille, en fait, mis dans le bon ordre, vous donnent une phrase et cette phrase permet de comprendre une succession de dialogues qui vous racontent une histoire. Donc c'est un mélange entre livre dont vous êtes le héros, Escape, Codename, Sudoku, enfin voilà, c'est au croisement de tous ces jeux-là, et donc ça se joue seul, c'est la version la plus dure, parce que voilà, on est vite empêtré dans ses propres idées, et on a du mal parfois à changer de voix, et c'est idéal à deux ou trois pour collaborer, discuter, essayer de sortir, comme un Escape en fait, moi je le compare beaucoup à ça.
Parce que dans les grilles les plus simples, bon, il y a 2-3 solutions à chaque étape, on va dire, à moins que tu aies l'esprit tordu, tu peux en trouver plein. Ouais. Mais quand il commence à y avoir plusieurs altercations possibles, donc, embranchements possibles, qui reviennent sur eux-mêmes, on revient en arrière, on les remet, on repart, on part dans un autre sens. C'est un peu qu'un labyrinthe, on revient, on se trompe de chemin, et c'est passionnant. Il y a un petit côté manipulation, parce que ouais. Je crois que c'est les boîtes de jeu les plus grosses que tu aies faites, mais on est loin du format flip-flap tout petit.
Ouais, il y avait Crazy Time et Ruby One qui étaient un peu format au-dessus, mais en épaisseur, mais sinon, oui, c'est une boîte de 20 cm.
Tu peux te promener avec un sac avec toute ta ludothèque dedans, pratiquement.
Ouais, carrément, bah, c'est ce qui se passe.
C'est très pratique. Et la manipulation du jeu, on a des petites tuiles, et puis le design est parfait, très sobre. C'est qui l'illustrateur ?
C'est Mathieu Klaus, qui est un graphiste de l'Est.
C'est la première fois que tu travaillais sur des jeux, je crois.
Non. En fait, c'est le graphiste attitré d'un autre éditeur que vous connaissez peut-être, qui est Le Droit de Perdre, Ta Gueule, tous ces jeux-là, Comment Adopter un Dragon, Comment J'ai Adopté un Dragon avec nous, Crazy Theory, enfin voilà.
Ouais, t'as sorti un jeu avec eux, d'ailleurs.
J'ai fait Débat Débile avec lui, et c'est comme ça que j'ai rencontré Mathieu, puisque Mathieu est celui qui a fait la boîte de Débat Débile chez Le Droit de Perdre.
Alors, il y a une version, un peu une démo qu'on peut tester sur le site Flip Flap Edition.
Exactement, ouais. Tu peux télécharger, ce sont trois grilles. En fait, ce sont celles que je présente en festival. Ce sont trois grilles de force croissante pour se rendre compte un petit peu de ce qui peut se passer dans une grille. Donc, c'est à environ une demi-heure de jeu, hein, si tu te colles à ça. Il y a de quoi, il faut, bon, si on est sur le site, il faut découper les petits galets, mais on peut aussi jouer avec des petits bouts de papier, des choses comme ça qu'on fait chez soi. Et ça permet de se rendre compte si c'est fait pour toi, en fait. Le but, c'était ça. Et surtout, ça spoile pas les boîtes, puisque dans les boîtes, tu as 30 énigmes qui te racontent une aventure. Aujourd'hui, il y a deux boîtes, il y en a une troisième qui va arriver. Et le but, c'est de pas attaquer la boîte, tant que tu l'as pas sous les yeux.
La première boîte est sortie. Alors, c'est celle qui est bleue.
La première, c'est la violette.
C'est la violette. Donc, ouais. C'est ricochet à la poursuite du compte courant.
Ouais, c'est ça.
Encore un jeu de mots, bien sûr.
Et ouais, encore fait par un banquier, ça.
Sorti en 2020. Et la seconde, qui est sortie presque dans la foulée. Quoi.
La deuxième, elle est sortie. En fait, pour dire vrai, au départ, je pensais en faire qu'un. Je pensais même pas l'auto-éditer. J'ai présenté le projet à BlackRock parce qu'en fait, moi, j'ai resté un peu sur mes. J'avais déjà des projets et BlackRock. Mais je voulais quand même essayer de le laisser dans le catalogue de BlackRock, donc chercher un éditeur chez BlackRock. Et quand BlackRock a vu le jeu, que je leur ai montré, parce qu'on a une grosse complicité avec le distributeur, maintenant on est obligé quand même d'avoir leur avis sur le positionnement du jeu, le prix, tout ça, puisque c'est eux qui gèrent le catalogue. Et eux, tout de suite, ils m'ont dit voilà, mais tu donnes ça à personne, tu le fais parce que tu as passé ton temps à expliquer les blagues, les jeux de mots, ouais. Les chemins. Donc il y a que toi qui peux le maîtriser. Ce qui, avec du recul, effectivement, est plutôt vrai.
Alors, c'est vrai que quand on ouvre une boîte, elle est à moitié. Alors on peut mettre les deux jeux dans une boîte. C'est pratique.
Tu pourrais. Mais en fait, il faut se dire aussi que si tu veux, je pouvais pas faire plus fin, ouais. Parce qu'après chez l'imprimeur, en fait, si tu veux poser ta boîte droite. Elle tient pas. Et l'idée, c'était aussi que justement la démo, parce que dans les festivals on distribuait des démos, etc. Tu pouvais les mettre dedans. Donc il y a, bon, c'est bien, il y a toujours un petit peu de jeu. Mais surtout au début, je savais pas combien de grilles, c'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse plein de devis, parce que je ne savais pas combien d'énigmes en fait je pouvais faire tenir dans une boîte pour que ça reste à un prix abordable, oui, pour le joueur. Quoi.
Contrairement à ce qu'on pense, le papier est beaucoup plus cher que le plastique quand on fait des jeux.
Exactement. Bah surtout si tu travailles pas en Chine, quoi. Moi, je travaille pas en Chine, donc du coup, le carton, puis alors encore plus en ce moment avec les pénuries de matières premières, là, c'est vraiment la galère pour les cartes et
donc
les cartons.
Donc là, ils sont fabriqués en France
Tout est en Europe, moi. C'est en Europe, c'est pas en France, mais en France, là, j'ai fait des devis pour essayer de fabriquer local, notamment depuis la pandémie, mais franchement, les éditeurs, ils sont pas. C'est pas encore le top. Il y a plein de papiers qu'ils connaissent pas. Il y a assez peu d'éditeurs qui sont équipés machines à jeu réellement. Donc voilà, ils peuvent te faire des choses, mais pas forcément des choses dans les canons du jeu de société.
Puis dès que ça sort de l'ordinaire pour eux, ben, les prix explosent un peu.
Et de toute façon, ouais, quand tu leur donnes leur tarif, ils n'osent même pas te donner leur devis. Quand tu leur dis, voilà, moi je suis prêt même à payer un peu plus cher que ce que je paye ailleurs pour que ça soit en local, parce que tu vas gagner sur d'autres choses. Mais quand tu leur dis un peu le prix pour que le joueur, moi Ricochet, il est vendu 22 euros, tu vois, si je veux rester, en coût d'impression, j'ai forcément, j'ai forcément un
le
coup
droit de perdre. Ils sont aussi très stricts aussi sur la fabrication.
Le droit de perdre, oui. Ouais, le droit de perdre. Ils ont même une charte assez écolo, puisqu'ils plantent un arbre. Enfin, tu vois, il y a des systèmes de plantations qui sont mis en lien avec leur jeu. À chaque jeu acheté, ils favorisent une association qui replante des jeux. Donc, mais de plus en plus, hein, l'éco-conception est. Et tout du moins étudier, parce qu'en fait, tu vois, Ricochet, ce sont des cartons et pas des cartes. Donc, tu veux faire des cartes, les gens savent, des cartons, déjà, il faut avoir les rouleaux, il faut avoir les machines calibrées, il faut avoir... Bon, voilà, donc tu rentres dans un autre circuit qui est pas forcément toujours possible, quoi.
Moi, je fais partie de ceux qui... Alors, il y a tous les petits pions qui sont sur une planche à dépuncher, comme on dit chez les professionnels. Et bien sûr, moi, je repunche tous les pions à la fin de la partie. Ouais, donc, j'ouvre ma boîte, j'ai l'impression qu'elle est neuve.
T'es un puriste, oui. C'est ça. Mais l'idée, c'est vrai que...
Tout simplement. Ils s'ennuient, c'est tout.
Non, l'idée, c'est qu'à terme, pourquoi il y a aussi un petit peu de vide, comme tu dis, enfin, la moitié de la hauteur, qui est 4 cm, hein, donc, c'est qu'en fait, il est possible qu'à terme, peut-être par région, enfin, tu vois, tous des trucs avec BlackRock qu'on s'est posé, peut-être faire des énigmes, mais par régional, tu vois, tu pourrais avoir un truc en ch'ti, en breton, voilà, avec des trucs locaux.
Justement, parce que le jeu, c'est toi qui conçois toutes les énigmes?
Tu conçois tout. Ouais.
À la main, peut-être, ouais. T'as pas d'algorithme derrière.
Non, mais tu peux pas le faire en algorithme. Je suis en train de développer une appli d'ailleurs avec le jeu et
pour jouer au jeu
sur ton téléphone.
C'est ce que je disais, la manipulation. Alors, ça peut faire penser à une appli. Moi, je préfère infiniment toucher. Mais il y a un côté manipulation gris comme ça qui peut faire penser à une appli.
Tu peux, mais en fait, le problème, c'est qu'en créant cette appli, tu découvres aussi que un algorithme peut pas faire ça. Donc moi, ça veut dire qu'il faut que je crée. Tu vois, on ouvre l'appli avec 60 énigmes. Donc, je sais pas si tu vois le travail d'écriture, puisque en fait, pour une énigme que tu vas mettre entre 5 et 15 minutes à craquer, puisque sur le téléphone, elles sont plus faciles, il y a quand même toujours 2-3 heures de boulot, tu vois, pour la faire, la tester. Donc, en fait, la seule chose qui fait qu'on s'y retrouve, c'est le volume, quoi. C'est la raison pour laquelle, au départ, comme je te disais, je pensais en faire qu'un. Je reviens à la question il y a une demi-heure.
Ah, mais avec 60 énigmes?
Et non, je pensais en faire qu'un. Alors, je savais pas. Finalement, ça s'est calibré sur 30 énigmes pour pouvoir être dans les prix, etc. Mais quand les gens avaient fini la première boîte, tu vois, alors, ils ont mis un mois et demi, tu vois.
Ils m'ont dit. Ils ont fini la première boîte.
Voilà, ils m'ont dit, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus? Je recevais des messages, on veut du plus costaud, etc. Du coup, j'ai fait la boîte bleue, qui est la 2, le profil de l'homme sans visage, la deuxième aventure, ouais. Et qui là, en fait, amène un nouveau mode de jeu un peu particulier, sans rentrer sur les détails, mais surtout qui est deux niveaux au-dessus, quoi. Donc, les gens qui ont fait la deuxième, là, m'ont dit, c'est bon, on est calmé. Voilà, les grilles de 20 à 30 dans cette boîte-là, je crois que c'est les plus dures que j'ai jamais faites. Même moi, en les refaisant, je m'auto-bloque.
Effectivement, quand je t'ai revu la dernière fois, j'avais déjà testé le jeu il y a un ou deux ans au salon d'Amiens. J'ai acheté la boîte et en y rejouant sur le salon, j'ai refait les boîtes. Tu m'as dit, tu les as déjà fait. Ouais, tu parles. Je me suis moins trompé. Mais bon.
Non, mais c'est intéressant parce que justement, beaucoup de gens, comme ils connaissent, tu vois, les Unlock, enfin, tous ces jeux d'escape qu'on a l'impression, une fois qu'on l'a fait, qu'ils sont entre guillemets jetables. Enfin, voilà, c'est un peu le terme qu'on utilise. Bon, voilà, les jeux à vie unique, entre guillemets. Et en fait, le constat aujourd'hui, c'est que Ricochet l'est pas du tout, quoi. Les gens qui ont fini l'énigme, en fait, c'est quand même 20 à 25 heures de jeu pour finir la boîte. Donc, déjà, à quel jeu tu joues 25 heures? Il y en a pas quand même tant que ça. Et une fois que t'as fini les 25 heures, en fait, les gens me disent, on l'a repris 3 mois après avec des amis pour leur montrer. Et en fait, ils ont dit, on oublie complètement tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis en partie les réponses dans la boîte, ouais. Pour être en capacité de les oublier, quoi. Ouais.
Et donc, pour l'instant, version française, il y a des idées, des pistes pour faire dans d'autres langues?
La seule, pour l'instant, j'ai une piste qui serait québécoise, sachant qu'au Québec, ils ont la double contrainte français-anglais. Et le but, ce serait de développer une version québécoise française, enfin francophone, mais avec leur vocabulaire eux, parce que déjà, il y a pas mal de différences, qui fait que le jeu, en tant que tel, je peux pas l'exporter. Oui. Déjà, en Belgique, il y a 2-3 petits trucs qui frottent.
Il y aura un peu plus de références au hockey sur glace, je pense, en version canadienne.
Alors, justement, dès que... Je suppose qu'il y a aussi des petits jeux de mots à l'intérieur, qui, au cours de l'évolution, ouais. Ce qui rend l'exportation dans d'autres langues assez difficile, et voire on doit presque refaire le jeu.
Ouais, il faut tout. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que ça refroidit les éditeurs. C'est que, en fait, soit tu vends le concept, mais il faut trouver un gars, d'ailleurs, avec qui je serais suffisamment complice pour lui expliquer vraiment le truc. Mais il y a une autre manière de voir, parce qu'en fait, il y a aussi plein de langues où le rébus n'existe pas. Tu vois, moi, j'ai découvert je crois que les Allemands, tu vois, c'est des choses qu'ils font pas. En fait, il y a plein de langues où ce truc-là n'existe pas. Donc, en fait, on pourrait faire une version anglaise un peu générique, parce que justement, les Québécois visent aussi le marché canadien, donc eux, ils ont la double contrainte. Et donc, mais ce serait pas une validation par rébus. Parce qu'en France, là, on fait les rébus une fois que tu as les... Donc là, ce serait une autre type de validation sur laquelle je suis en train de travailler, ce qui fait qu'une fois que tu as tes mots à la fin, les 3 ou 5 mots qui te restent, ils te serviraient à décrypter quand même un message secret, mais qui serait basé du coup sur n'importe quel type de langage et qui n'utiliserait pas la spécificité du rébus qui, a priori, reste très français quand même. Voilà. Mais ça, j'ai découvert à force, quoi, parce qu'au départ, forcément...
De musique.
Allez, c'est vrai que d'habitude on passe plus de musique, mais bon, sur des sujets.
Ouais, non, c'est pas ça. C'est que je pense que personne ne voulait écouter le morceau suivant. C'est tout.
C'est pas faux.
C'est un blind test.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de blind test.
J'ai connu la voix de. C'est Abba.
Abba. C'est les Abba, effectivement.
Ah, les Abba. Nouveau Abba.
On dit pas les Abba.
Alors,
c'est fou.
Il y a les personnes comme Fleetwood Mac, hein, qui essaient un peu de tirer sur les côtés pour paraître jeune.
On n'attaque pas le physique.
Et il y a les autres qui se disent, mais si on se remodélisait en 3D.
Et pourtant, ils sont suédois. Il paraît que ces gens-là font magnifique.
Okaba sort un nouvel album Voyage et va nous faire une petite tournée, un peu en 4D.
Holographique.
C'est ça. Ou donc ils seront modélisés par rapport à leur performance qu'ils ont exécutée à leur âge. Et ils seront modélisés comme s'ils étaient un peu jeunes.
Ils sont modélisés, constitués par des intelligences artificielles.
C'est ça.
Wow.
Y a que la voix où on sent que l'autotune est...
Est-ce qu'ils vont se présenter à l'Eurovision? Ils seraient capables de gagner? Ouais. T'imagines,
c'est
40 ans après, ils ont gagné 2 fois l'Eurovision, je crois, voire 3, voire 4. T'imagines, 40 ans après, ils regagnent l'Eurovision.
Bah attention, s'ils gagnent, c'est que ça veut dire que tu peux lancer l'Eurovision avec des groupes holographiques.
Si je présente, on fait l'émission en direct à Radio Campus, toute la soirée. Et on diffuse tout.
Ils vont peut-être devoir ramasser du verre comme les Italiens.
Oh, tout de suite.
Non, ça c'est plus pour moi.
C'est le médicament qui prête, c'est pas pareil.
Alors,
la plupart des gens avec qui ça aurait fait plaisir, malheureusement, ils sont plus là.
Alors, on va s'écouter le deuxième album d'un duo british. Je suis désolé, j'aime bien la musique, donc j'allais durer un peu. C'est leur deuxième album qui a été mixé par Dave Friedman. C'est Song Iced Gem. Qui sort donc un album. Enfin, Iced Gem, c'est le nom de la chanson. Et le groupe, c'est Penelope Isle.
Thank you.
Penelope Isle avec leur chanson Iced Jam. Non, on va pas en écouter plus, c'est déjà pas mal. Et l'album s'appelle Which Way to Happy. On accueille donc Cyril Blondel sur les ondes de Radio Campus 106,6. Il nous reste quelques minutes pour parler éventuellement de notre projet. Alors, quand on a ouvert l'émission, tu nous parlais de ces jeux hein, qui ont donné le nom d'ailleurs à l'édition Flip Flap Edition, un peu basé sur une carte qu'on le retourne. Alors tu nous disais, il y en avait 5, mais est-ce qu'il y en a eu plus après ?
Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, si vous allez sur le site, vous découvrirez qu'il y en a 11. Différents, on a essayé d'en rajouter toujours un ou deux par an en fonction des idées. Évidemment, plus on avançait, plus c'était compliqué parce que il fallait aussi réussir à rénover avec ce geste assez simple. Donc il y en a toujours dans les tuyaux, mais le marché du jeu ayant pas mal évolué depuis 4-5 ans notamment, c'est devenu le constat avec le distributeur donc BlackRock, c'est qui est vraiment un partenaire hein, dans l'évolution de ta société. Maintenant, tu es quand même obligé dans la diffusion de travailler sur quand même ce qui va pouvoir sortir ou pas. Et le constat, c'est que ce sont les collections plutôt condensées qui fonctionnent. C'est-à-dire que moi, j'étais parti pour garder tous mes jeux tout le temps. Aussi par respect pour les auteurs, parce qu'après il y a d'autres auteurs qui ont fait des jeux justement dans cette petite gamme, et donc j'aimais bien leur assurer la pérennité du truc. Mais il se trouve que aujourd'hui avec le marché qui s'est complexifié et la durée dans le temps de vie des jeux, en fait on va recondenser la gamme en gardant vraiment les meilleurs et essayer qu'elle ne dépasse pas 6 ou 8 jeux, enfin voilà, de manière à ce que tous les ans, tu amènes une nouveauté, mais elle vient pas s'ajouter. C'est-à-dire la collection, elle est en quelque sorte fermée en termes de nombre, et t'as une rotation sur un ou deux exemplaires qui sont là depuis un peu trop longtemps, etc., pour redonner un coup de booster, quoi. Donc c'est un subtil équilibre entre qu'est-ce qui doit durer et comment tu viens un peu renouveler le genre, quoi. Donc ça devient compliqué de tout faire tenir, en fait.
Et dans la gamme Ricochet, donc il y a un petit nouveau, le troisième, mais qui porte un nom un petit peu différent.
Oui, alors il s'appelle Ricochet 3 quand même sur la boîte, tu verras, il y aura quand même. Mais la fin du mot est barrée pour rajouter ONS et ça fait Ricochon, et puisqu'effectivement c'est un Ricochet cochon.
Voilà, je sens l'influence du droit de perdre là-dessus.
C'est étonnant.
C'est un plus de 18 ans. Mais je dois dire que c'est en fait, si tu veux, quand j'écris une histoire de Ricochet, je dois cumuler une centaine de rébus. En fait, je dois créer d'abord environ 100 phrases rébus pour en garder que 30. Et donc forcément, dans les 100 que tu gardes, t'en crées toujours plus, puis d'année en année, voilà. Et donc j'ai stocké une quantité, puis j'ai un pote aussi qui est assez fan de rébus un peu salaces, et donc j'avais stocké une centaine de rébus connotés, on va dire. Donc il y a un peu de sexe, un peu d'argot, des gros mots, enfin des trucs comme ça. Et donc j'ai réussi à écrire une histoire, parce que la difficulté c'était d'écrire une histoire qui permettait de placer en fait des rébus connotés, voilà. Donc si vous ouvrez une boîte de Ricochet 3, donc Ricochon, en lisant, il n'y a rien de déplacé, il n'y a rien de connoté, etc. Par contre, à chaque fois que vous allez résoudre le rébus, voilà, le contraste il se fait sur le rébus. Tous les rébus, enfin 28 sur les 30 sont assez osés, quoi.
Et il sera disponible quand?
Il sera disponible première semaine de décembre, donc dans un mois, quoi.
Pile poil. Les boîtes de Ricochet sont déjà pour les 14+.
Ouais, c'est du 14+, parce que en fait, si tu veux, je pouvais pas le descendre en dessous en termes de capacité, d'expérience de vie, de vocabulaire, tu vois, un peu de culture générale aussi. Mais dès que t'as des trucs qui tournent autour de la voiture ou de la carte bleue, etc., tu sens bien que les références pour les enfants, c'est pas possible, tu vois, dessus. Donc souvent, ils le font ensemble, les adultes sont un peu en soutien technique, des plus jeunes, etc. Là, je suis en train d'écrire pour les 8-14 ans. Donc ce sera la Ricochet Junior qui sera celui de l'année prochaine. Voilà, une fois que j'aurai ces 4 là, comme je le disais juste avant, ça fera une belle collection condensée, puisqu'il y aura un niveau 1, un niveau 2 expert, un plus de 18 ans et un 8-14 ans. Donc on aura de quoi faire
Et voilà. Le prochain salon, avant de finir l'agenda, le prochain salon où tu seras présent, où on pourra tester les gens en vrai.
Eh bien, ce sera HL dans le 77. C'est les 20 et 21 novembre, je crois. Pas ce week-end-là, celui d'après. Voilà. Okay, qui est le prochain, qui est un assez grand Val de Jeux, ça s'appelle.
Alors, on peut rappeler donc la bourse aux jeux et jouets qui aura lieu le 11 novembre à la salle des Dulles.
À ce club, organisé par les grands enfants. Le Roll Event qui commence le jeudi 11, donc rollevent.fr, au profit d'associations, et Ludigeek, le week-end prochain, nous on y sera, normalement.
Voilà, merci Cyril Blondel, suivra donc avec tes autres jeux, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France, et d'ici là, portez-vous bien.
En plus, il est 19h.